Deutsche Welle, Info, Matin.
Bonjour à tous, nous sommes le mardi 15 novembre 2016. Il est 7h à Bamako au Mali et 8h ici à Bonn. Vous êtes à l'écoute d'Info Matin sur la Deutsche Welle, la radio internationale allemande. Au micro, Kossi et Anne Letouzé. Bonjour Anne.
Bonjour, au menu de cette édition, les Congolais toujours dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre après la démission d'Augustin Matata Ponyo, une démission qui a été officialisée hier.
En Mauritanie, le blogueur condamné à mort pour mécréance attend aujourd'hui la décision de la Chambre correctionnelle de la Cour suprême.
Nous verrons également le bilan du président américain Barack Obama vu d'Afrique.
Et pour la page sportive, Ali Farhat est à nos côtés. Ali, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous. Du 26 novembre au 3 décembre prochain, le Togo abritera la 7e édition du tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Par ailleurs, en cyclisme, le Rwandais Joseph Areruya s'empare du maillot jaune au Tour du Rwanda.
Vous êtes à l'écoute d'Info Matin sur la Deutsche Welle. On démarre cette édition avec le Flash Info, Anne Letouzé. On commence par les États-Unis où le président sortant Barack Obama estime que son successeur Donald Trump est un pragmatique.
Oui, selon Barack Obama, Donald Trump aura du mal à démanteler les accords internationaux signés par les États-Unis. En premier lieu, l'accord de Paris sur le climat et celui sur le nucléaire iranien. Lors de sa première conférence de presse depuis les élections du 8 novembre, le président américain a confié ses inquiétudes à propos de la présidence Trump qui commencera le 20 janvier prochain. Des inquiétudes justifiée selon le Wall Street Journal qui affirme que Donald Trump se serait dit surpris par l'étendue des tâches de la présidence américaine. Face aux inquiétudes exprimées par les alliés des États-Unis, Barack Obama a promis qu'il y aurait une immense continuité de la politique étrangère.
Barack Obama qui a entamé le dernier voyage officiel de son mandat.
Et c'est en Grèce que le président sortant démarre cette tournée d'adieu. À Athènes, Barack Obama doit notamment évoquer la question des réfugiés. Il devrait également plaider auprès des créanciers de la Grèce pour un allègement de la dette. Après la Grèce, Barack Obama est attendu en Allemagne où il rencontrera la chancelière Angela Merkel, mais aussi le président français François Hollande, la chef du gouvernement britannique Theresa May et son homologue italien Matteo Renzi. La tournée d'adieu du président américain se terminera en fin de semaine au Pérou où Barack Obama doit participer au forum de coopération économique Asie-Pacifique, occasion d'un entretien avec le président chinois Xi Jinping.
Le ministre allemand des Affaires étrangères est lu en visite en Turquie.
Fraîchement désigné par la coalition gouvernementale à Berlin pour devenir le prochain président fédéral, Frank-Walter Steinmeier est arrivé à Ankara où il doit s'entretenir avec son homologue des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu et d'autres représentants du gouvernement turc. Le chef de la diplomatie allemande a également l'intention de rencontrer des responsables de l'opposition. Sa visite survient à un moment où le gouvernement d'Ankara mène une répression sévère contre les médias et les opposants. Raison de plus pour Frank-Walter Steinmeier de ne pas renoncer au dialogue avec la Turquie. Il a toutefois mis en garde le gouvernement turc de ne pas rétablir la peine capitale, une mesure qui fermerait définitivement la porte de l'Union européenne à Ankara.
Et enfin, arrestation en Russie du ministre de l'économie.
Alexei Olioukayev est soupçonné d'avoir reçu un pot de vin dans le cadre d'un marché pétrolier, 2 millions de dollars en échange de son approbation à l'acquisition en octobre dernier par le géant pétrolier semi-public Rosneft du pétrolier Bashneft, propriété de l'État. Le ministre qui était en poste depuis 2013 a été arrêté par le comité d'enquête, un organe directement rattaché à la présidence de Vladimir Poutine, après avoir été pris la main dans le sac, selon le porte-parole du comité.
Anne, il reste encore deux nouvelles. Les forces américaines dans le viseur de la Cour pénale internationale.
Oui, le bureau de la procureure Fatou Bensouda a annoncé disposer d'indices sur des crimes de guerre commis par l'armée américaine et la CIA en Afghanistan et dans des prisons secrètes. Des faits qui remontent à 2003 et 2004. La CPI estime disposer d'un motif raisonnable pour de croire qu'au moins 88 prisonniers ont été torturés par les forces américaines en Afghanistan et dans des lieux de détention de la CIA en Pologne, en Lituanie et en Roumanie. Une enquête pourrait être ouverte sur la base de ces éléments. Et enfin, une nouvelle opération de police ce matin dans les milieux islamistes en Allemagne. Une opération menée simultanément dans 10 Länder, les régions allemandes, contre des soutiens présumés au groupe État islamique. Des centaines de policiers ont perquisitionné plus de 200 appartements et bureaux d'organisations et militants de l'association salafiste radicale La Vraie Religion. Le ministre de l'Intérieur, Thomas de Maizière, vient par ailleurs d'annoncer l'interdiction immédiate de cette association qui distribue des Corans dans les villes d'Allemagne et qui prône un islam particulièrement conservateur, contraire aux valeurs démocratiques occidentales. Il y a tout juste une semaine, les autorités allemandes avaient arrêté 5 personnes soupçonnées de recrutement en Allemagne pour le groupe État islamique.
C'était Anne Letouzé pour le Flash Info. Il est 7h05 en temps universel. En République démocratique du Congo, toujours pas de nomination d'un nouveau Premier ministre. Le chef du gouvernement, Augustin Matata Ponyo, a démissionné hier ainsi que son gouvernement conformément à l'accord politique. En attendant, le président Joseph Kabila devrait s'adresser à la nation ce mardi devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès.
Pendant ce temps, la CENCO, la Commission épiscopale nationale du Congo, poursuit sa médiation pour convaincre les leaders du Rassemblement, la principale plateforme de l'opposition, de rejoindre l'accord politique global signé le 18 octobre dernier. À ce sujet, écoutez l'analyse de Cyril Moussila, chercheur associé au programme Afrique subsaharienne de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il a été joint à Kinshasa par Eric Topona.
Bon, la question centrale, je crois que c'est un peu la question électorale. Il y a question aussi de la constitution, donc de la fin du mandat officiel du président selon la constitution. Mais vu qu'il n'y a pas d'élection, donc c'était de savoir comment on organise les élections normalement, sans qu'il y ait vide d'État, sans qu'il y ait grande crise majeure. Et donc trouver les solutions adéquates ou ad hoc pour essayer de trouver cette période, bien que sur ces questions, les acteurs politiques sont très très partagés.
Oui, justement, c'est parce qu'ils sont partagés que la CENCO est en train de jouer les médiateurs pour convaincre la frange de l'opposition réunie au sein du Rassemblement. Est-ce que vous pensez que la CENCO va réussir à convaincre ceux qui étaient réticents par rapport à l'accord politique global?
Faire confiance, c'est un acteur qui est clé, en fait, qui est un peu écouté de tous les côtés, que ce soit ceux de la majorité que ceux de l'opposition, on peut leur donner ce crédit-là de la neutralité, mais donc de rapprocher. Elle pourrait y arriver, mais je pense que le problème majeur pour que la CENCO y arrive, réussisse, c'est d'abord la volonté politique des acteurs eux-mêmes.
Oui, mais vous parliez de volonté politique. Avez-vous le sentiment que le président Joseph Kabila Kabenge a une volonté de respecter les termes de la Constitution, c'est-à-dire qu'il ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle?
Il a à se prononcer, mais je crois qu'il est conscient de la responsabilité qui est la sienne, ça c'est certain, c'est important, pour pouvoir jouer à l'apaisement, à la stabilité de l'État.
Beaucoup au Congo estiment que le président Kabila a dû signer un deal secret avec Vital Kamerhe, si jamais ce dernier était nommé Premier ministre, pour qu'il puisse éventuellement, tranquillement, être candidat à la prochaine présidentielle. Est-ce que vous avez entendu parler de ça?
Le plus important, c'est comment on franchit des dates pour que les prochaines échéances se passent dans une bonne entente, dans une bonne coopération, et que la démocratie grandisse en RDC, que la paix et la stabilité soient un des facteurs ou des facteurs clés.
Le rassemblement à cette frange de l'opposition qui n'a pas pris part au dialogue rejette toute idée de transition politique avec le président Joseph Kabila et lui demande de quitter le pouvoir le 19 décembre, la date marquant la fin de son deuxième mandat.
En bref, le groupe djihadiste nigérian Boko Haram dit déclarer la guerre au président élu aux États-Unis Donald Trump. Dans un message audio diffusé sur Internet, le leader du groupe Aboubakar Shekau a estimé qu'avec l'élection de Trump à la présidence américaine, la guerre ne faisait que commencer.
En Mauritanie, la chambre correctionnelle de la Cour suprême doit se prononcer aujourd'hui sur le dossier d'un blogueur condamné à mort pour mécréance. Mohamed Cheikh Ould Mohamed est détenu depuis le 2 janvier 2014 pour un article sur Internet considéré comme blasphématoire envers le prophète de l'islam. Il encourt la peine capitale.
Un verdict sévère, pourtant salué par une partie de l'opinion mauritanienne et par le forum des oulémas et imams pour la défense du prophète Mahomet. Cette organisation a appelé dimanche au maintien de la sentence, alors même que l'accusé s'est repenti. Écoutez Maître Fatima Mbiaye, avocate de Mohamed Cheikh Ould Mohamed.
on espère que la Cour suprême va le rétablir dans ses droits. La Cour suprême, elle ne décrète pas d'une condamnation. Elle voit, elle vérifie l'application de la loi.
Le verdict et la condamnation de votre client à l'origine avaient été accueillis par la population ou par une partie de l'opinion mauritanienne de façon plutôt étonnante. Il y avait eu des manifestations de joie quand on avait appris que votre client avait été condamné à mort. Est-ce que vous pensez que la justice peut craindre aussi une réaction de la population?
Je pense que la population mauritanienne, de manière générale, elle est une population très apaisée. Elle n'est pas un peu dans le radicalisme. Il n'y a que ceux qui sont des radicaux qui vont certainement essayer de semer un peu la pagaille, etc., comme ça a été le cas dès le départ. Sinon, la population mauritanienne, de manière générale, elle est très paisible, elle est très apaisée et elle connaît parfaitement bien sa religion. Et on sait aussi ce que dit la religion. Là, il n'y a pas de double mesure, en fait. Donc, nous, ce que nous disons aujourd'hui, on ne veut pas que Mohamed soit victime de la montée du radicalisme en Mauritanie.
Dimanche, il y a un collectif de chefs religieux musulmans aussi qui a publié un communiqué en disant « Oui, il faut qu'il soit condamné à mort ». Est-ce que ça peut avoir une influence quelconque sur la population ou aussi sur la justice mauritanienne ?
Oh non, la population, comme je vous l'ai dit, nous, on n'est pas encore dans des cativas, on n'est pas encore vraiment... dans des pays tels le Pakistan et autres, etc. Bon, on se respecte ici en tant que Mauritanien parce que tout simplement, on sait que la religion, c'est une affaire individuelle, même si la collectivité a son mot à dire sur certaines choses. N'empêche que c'est une affaire personnelle. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense aussi que sur cette question-là, ce n'est pas tous les Mauritaniens qui avaient manifesté. C'est une question qui concerne Mohamed en tant que jeune Mauritanien. Et comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'une affaire pareille atterrit sur le bureau d'un juge. C'est la première fois.
C'était Maître Fatimata Mbaye, avocate du blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Ould Mohamed, interrogé par Constance von Kotze. Et toujours en Mauritanie, le procès en appel de militants anti-esclavagistes condamnés à des peines de prison, notamment pour usage de la violence, s'est ouvert hier à Zouerat, dans le nord du pays. Il s'agit de 13 militants de l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, IRA, et de 7 habitants du bidonville de Ksar, dans le centre de Nouakchott, dont le déplacement forcé par les autorités le 29 juin dernier avait provoqué des heurts entre les manifestants et la police.
Au Tchad, un groupe d'associations de la société civile demande l'abolition de la peine de mort. Ces associations viennent de mettre sur pied la coalition nationale contre la peine de mort au Tchad. La peine capitale a été officiellement supprimée du code pénal tchadien en 2014, mais réintroduite en 2015 à travers une loi spéciale dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
En Tunisie, les autorités annoncent avoir découvert 3 importantes caches d'armes de guerre dans le sud du pays. Les 2 premières se situent à proximité de la ville de Ben Gherdan, près de la frontière libyenne. La 3e à Ben Gherdan. Une découverte significative pour les forces de l'ordre qui insistent sur la quantité saisie d'armes de guerre et de munitions. À la suite de ces découvertes, 3 hommes ont été arrêtés.
Vous écoutez la Deutsche Welle.
Il est 7h13 en temps universel. Vous écoutez toujours Info Matin.
Le président américain Barack Obama a entamé son dernier voyage officiel avant son départ de la Maison Blanche en janvier prochain. Voyage au cours duquel il doit se rendre en Europe et au Pérou pour le Forum de coopération économique Asie-Pacifique. Avant son départ pour cet ultime voyage, le président Barack Obama a qualifié son successeur Donald Trump d'homme pragmatique.
L'élection de Donald Trump a été largement suivie en Afrique, tout comme celle de Barack Obama à son arrivée à la Maison-Blanche. Mais alors, que retenir des 2 mandats de Barack Obama? Nous vous proposons d'écouter l'analyse de Katulondi Kabasu. Il est chercheur à West Africa Leadership and Government Academy. Il a été joint en Afrique du Sud par Bob Barry.
C'est plutôt sur le plan intellectuel et peut-être psychologique que la gestion de la Maison-Blanche par Barack Obama aurait donné un peu plus d'espoir à l'Afrique pour dire les African Americans, comme on les appelle aux États-Unis, ont su donc conquérir l'exécutif ou si vous voulez le gouvernement de la plus grande puissance mondiale. Mais sur le plan de l'accélération de la démocratisation, on n'a pas vraiment senti des actions concrètes susceptibles d'accélérer, n'est-ce pas, la démocratisation dans beaucoup de pays africains. Parce que actuellement, nous voyons, il y a dans beaucoup de pays africains des présidents, notamment au Congo-Brazzaville, au Congo-Kinshasa, au Rwanda, au Burundi, des présidents qui sont accrochés au pouvoir en dépit des limites, n'est-ce pas, prescrites par leur constitution. Et l'action des États-Unis sur ce plan-là n'a pas été une action vraiment robuste.
Alors comment expliquer cette mollesse de l'administration Obama vis-à-vis de l'Afrique ?
En réalité, Barack Obama a été plus absorbé. Au regard de défis majeurs internes sur le plan sécuritaire et sur le plan économique, parce que vous savez, la politique des États-Unis, c'est fondamentalement trois choses. C'est d'abord la croissance économique des États-Unis, la création des emplois, la lutte contre les inégalités, mais sur le plan international, c'est la sécurité extérieure et interne des États-Unis qui fait que il n'avait que très peu d'énergie, si vous voulez, à l'Afrique.
Mais quand même, Barack Obama semble être le seul président américain à avoir réussi quand même à réunir aux États-Unis, notamment à Washington, à la Maison-Blanche, par deux fois autant de dirigeants africains, même si la montagne n'a couché qu'une petite souris.
Évidemment, évidemment. Donc, je veux dire, les résultats de cette rencontre, qui, à mon avis, a fait plus de bruit que cet événement a généré un résultat palpable, c'était simplement symbolique. Les New York Times ont dénoncé le fait que à cette rencontre ont participé des dictateurs, notamment le président congolais, le président de Congo.
L'ancien président Blaise Compaoré du Burkina Faso.
Ben, voilà, donc des dictateurs qui, sur le plan des droits humains, ont à leur passif beaucoup d'abus.
Le chercheur Katulondi Kabasu Babu au micro de Bob Barry.
Et pendant que Barack Obama est en Europe, à Marrakech, au Maroc, des chefs d'État et de gouvernement se succèdent aujourd'hui et demain à la tribune de la conférence de l'ONU sur le climat, la COP22. Une rencontre baptisée segment de haut niveau a lieu ce mardi, rencontre à laquelle sont attendus plus de 70 chefs d'État et de gouvernement. Jusqu'à vendredi, les représentants de la communauté internationale doivent entre autres tenter de s'accorder sur la feuille de route qui doit permettre l'application concrète de l'accord climatique de Paris, notamment en garantissant que les pays développés versent bien aux pays en développement l'aide promise pour soutenir leur politique climatique.
Deutsche Welle, le sport.
Ali Farhat, on vous retrouve. Rebonjour.
Rebonjour Kosevi, rebonjour Anne.
Et on
bonjour.
Commence cette page sportive avec le tournoi qu'abrite le Togo du 26 novembre au 3 décembre, c'est-à-dire la 7e édition du tournoi de l'UEMOA.
Oui, le tournoi de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. 8 équipes se retrouveront à Lomé pour tenter de succéder au Burkina Faso, vainqueur du dernier tournoi en 2013, c'était en Côte d'Ivoire. Dans le groupe A, le Togo, pays hôte, se retrouve en compagnie du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Niger. Dans le groupe B, le Burkina Faso sera aux prises avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Bénin. Le match d'ouverture entre le Togo et le Mali aura lieu samedi 26 novembre, donc au stade de Kégué à 15h en temps universel. La finale, qui se déroulera le 3 décembre prochain, opposera le vainqueur du groupe A au vainqueur du groupe B. Sinon, sachez qu'aujourd'hui, certaines sélections issues du continent africain jouent des matchs amicaux. On aura par exemple Gabon, Comores et Tunisie, Mauritanie à 14h TU. Mozambique, Afrique du Sud, ce sera à 17h en temps universel, tandis que ce soir, la France accueille la Côte d'Ivoire et le Maroc reçoit le Togo. Deux rencontres qui débuteront à 20h TU.
Ali, est-ce que vous êtes venu à vélo ce matin ?
Non.
Bon, vous allez nous parler de cyclisme quand même.
Ben évidemment. Avec la suite de la 8e édition du Tour du Rwanda, deuxième étape hier, 96 km entre Kigali et Ngoma, c'est Guillaume Boivin qui s'est imposé en 2h, 12 minutes et 35 secondes. Le Canadien qui termine devant les Érythréens Zemenfes Solomon et Tesfom Okubamariam. Au classement général, c'est le Rwandais Joseph Areruya qui hérite du maillot jaune. Son compatriote Jean Bosco Nsengimana et le vainqueur de l'étape Guillaume Boivin sont à une seconde derrière, tandis qu'un autre Rwandais, Valence Ndayisenga, est lui à deux secondes. Le premier Camerounais, Jérémy Nzeke, est 32e à 2 minutes et 8 secondes. Troisième étape aujourd'hui, 124 km entre Kigali et Karangui.
Et Ali, on termine avec la petite balle jaune.
C'est du tennis, bien sûr, avec la suite des Masters de Londres, le dernier grand tournoi de l'année chez les hommes. Hier, dans le groupe John McEnroe, du nom du célèbre tennisman Andy Murray, a étrenné son costume de numéro 1 mondial par une victoire. Le Britannique s'est en effet imposé en 2-7 face au Croate Marin Cilic, 6-3, 6-2. De son côté, le Japonais Kei Nishikori a battu le Suisse Stanislas Wawrinka en 2-7 également, 6-2, 6-3. 3. Aujourd'hui, place au match du groupe Ivan Lendl avec Gaël Monfils contre Dominic Thiem, suivi de Novak Djokovic face à Milos Raonic.
Merci Ali, on vous retrouve ce soir à 17h en temps universel, c'est-à-dire dans notre édition qui commence à 17h en temps universel. Oui.
L'Afrique qui bouge. Reportage économique.
L'Afrique qui bouge cap sur le Togo. La première voiture fonctionnant à l'électricité solaire est fabriquée à Lomé grâce à la société Le Monde de l'Énergie. Elle compte une unité d'assemblage d'automobiles et de tricycles électriques fonctionnant à l'énergie solaire.
Si l'écologie est un thème de plus en plus présent dans les conversations, ce type de véhicule est encore cher pour une grande partie des Togolais. Jean-Claude Abalo, notre envoyé spécial à Lomé, a visité les ateliers de l'entreprise. Écoutez son reportage.
Et tu me limes ça très 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 rapidement, hein. On n'a pas assez de temps. Vas-y, vas-y, fais vite.
Dans la banlieue de Lomé, des techniciens et mécaniciens d'une unité d'assemblage d'automobiles et de tricycles électriques fonctionnant à l'énergie solaire dénommée Le Monde de l'Énergie sont à l'œuvre. Cette usine lancée il y a à peine un mois avec l'expertise de son partenaire chinois SK Ingenious Limited fait de l'assemblage et la commercialisation des voitures et motos écologiquement responsables. Parfait pareil. Technicien chargé des installations et des montages.
Le montage se fait en trois étapes, trois grandes étapes. La première étape consiste à faire de la soudure et après cela, la petite soudure qui consiste à mettre les petits éléments et à l'intérieur de la voiture. Après cette étape de soudure, on passe à la peinture. Maintenant, la troisième étape consiste à faire l'assemblage des différents composants, notamment le panneau au-dessus qui va alimenter l'engin.
Fabriqués au Togo, ces engins, des motos tricycles et véhicules à quatre roues notamment, associent le système solaire au moteur électrique. Ils sont dotés d'une batterie rechargeable et d'un panneau solaire de 250 watts. À l'intérieur, on y trouve entre autres un mini-ventilateur et une caméra de recul. Félix Eto, directeur général de la société Le Monde de l'Énergie.
En réalité, c'est en répondant à l'appel du gouvernement togolais de rater à l'industrialisation du Togo, tout en créant de l'emploi, en protégeant l'environnement, que nous avons décidé de nous engager dans l'économie verte.
Pour Sena Aluka, chargé du volet environnement et marketing de la dite société, les enjeux économiques de cette innovation sont énormes.
Les voitures électriques sont connues pour réduire la consommation de carburant et donc une baisse des subventions de l'État aux énergies fossiles. Chaque année, le Togo dépense 3 ou 4 milliards de francs CFA pour subventionner le carburant que nous mettons dans nos voitures. Eh bien, ce problème peut être réglé, ça fera une petite économie, puisque les voitures électriques n'ont pas besoin d'être subventionnées, ne consomment donc pas de carburant. Une étude récente de l'UNICEF a estimé que 7 millions d'enfants sont touchés annuellement par la pollution. Au Togo, c'est 3 000 personnes qui meurent chaque année à cause de la fumée. 3 000 personnes. Aussi, il faut noter que ces voitures roulent moins vite, donc elles provoqueront sans doute moins d'accidents et donc une économie sur la facture médicale et pour le budget national. Aussi, il faut savoir que la production de voitures génère forcément des emplois. Enfin, sur un plan purement économique, la vente de voitures aux pays étrangers entraînera l'entrée de devises et positionnera le pays dans sa voie vers l'émergence industrielle.
Ces hybrides, qui ont une vitesse moyenne de 60 km, permettent à charge pleine de parcourir en moyenne 180 km. La société a déjà commercialisé plus d'une centaine de ces engins. Cédric fait partie de ces tout premiers acquéreurs de la S-King.
J'ai fait le choix de cette voiture parce que, premièrement, j'aime l'environnement et voir tout ce qu'on dit à propos de la couche d'ozone. J'ai voulu tester premièrement cette voiture, voir si ce qu'on nous dit est vrai. Et vraiment, les résultats sont encourageants.
À terme, les fabricants entendent mettre en place une unité de production au Togo et des stations de recharge de ces engins sur toute l'étendue du territoire afin de permettre la création de milliers d'emplois dans le pays. Urel Unsu, lui, est conducteur de taxi-moto et il a bien envie de passer à la voiture électrique solaire.
Avant, on achetait la moto et il y a aussi des dépenses d'essence, des vidanges et autres. À la fin des bilans, on constate que vraiment, c'est parce qu'on voulait gagner comme travail quotidien. C'est pourquoi, personnellement, je voudrais bien l'utiliser.
Mais comme Urel, ils sont nombreux à encore hésiter à faire le choix de l'écologie au motif du coût de l'engin pas tout à fait à la bourse des Togolais. Félix Eto s'explique.
On demande aux institutions gouvernementales, d'abord par le Togo, de nous assister en exonérant beaucoup de taxes, de la douane, des frais, pour que ça revienne plus accessible à toute la population.
En Afrique, où la pollution reste la chose la mieux partagée, ils sont nombreux à croire que l'adoption de la mobilité verte pourra permettre de réduire l'ampleur du phénomène. Jean-Claude Abalo.
Chef, on a fini.
Lomé, pour la Deutsche Welle.
Certains ont pris la route, d'autres hésitent encore. Mais est-ce que ça vaut la peine de partir? La Deutsche Welle répond à vos questions sur l'immigration. Écoutez nos émissions radio du mercredi à 7h et 17h TU et discutez avec nous sur Facebook, WhatsApp et Twitter.
Et dans le cadre de cette série, la parole est à Mireille Drone ce matin. De plus en plus de jeunes Africains n'hésitent pas à tout abandonner pour rejoindre l'Europe dans des conditions de sécurité extrêmement précaires. Pour tenter de mieux comprendre l'immigration clandestine en Afrique, vous l'avez entendu, la Deutsche Welle a lancé un nouveau projet financé par le ministère des Affaires étrangères d'Allemagne.
Aujourd'hui, la Deutsche Welle est présente à Bamako au Mali pour débattre de ce phénomène. Mireille Drone, qui anime ce débat, nous en dit plus.
Oui, je me réjouis de présenter un débat avec un collègue de notre radio partenaire, Radio Clédou à Bamako. Un débat sur les migrations, puisque le thème de ce débat, ce sera partir ou rester les jeunes Africains en quête d'avenir. On sait que beaucoup de pays d'Afrique, dont le Mali, sont concernés par l'immigration clandestine. Et on entend et on voit tous les jours les chiffres catastrophiques des migrants qui risquent leur vie, qui abandonnent tout pour un avenir meilleur, un Eldorado que, hélas, souvent, ils n'atteignent pas. Alors, qu'est-ce qui les pousse à partir? Et puis aussi, quelles sont les mesures prises par le gouvernement, par exemple, pour les retenir? C'est ce dont on débattra, donc, avec de nombreuses personnalités, par exemple, un ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes au Mali, mais aussi le président de l'association malienne des expulsés, et puis Aminata Traoré, que tout le monde connaît, l'ancienne ministre de la Culture et du Tourisme, et militante altermondialiste, qui sera aussi là sur le podium, et puis un blogueur, et évidemment des jeunes maliens concernés qui vont témoigner, eux, de leur expérience. Ils sont partis, mais ils sont revenus aussi, et puis ce sera pour moi aussi l'occasion, bien entendu, de rencontres avec aussi de nombreux auditeurs et personnes qui seront invités. Donc vous en saurez plus évidemment au cours de la semaine. Soyez à l'écoute et puis n'hésitez pas vous aussi à nous faire parvenir évidemment vos commentaires sur la question, comme toujours par SMS, par mail, sur Facebook et puis sur WhatsApp, et à laisser des messages écrits et parler aussi. Merci et à très 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 bientôt.
Merci à vous aussi Mireille. Depuis Bamako, vous êtes toujours sur Info Matin. Anne Letouzé, ce qu'il faut retenir de l'actualité de ce mardi.
Oui, la RDC toujours dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre après la démission hier d'Augustin Matata Ponyo, un Premier ministre qui devra être issu de l'opposition signataire de l'accord politique du 18 octobre. Dans l'attente également, le blogueur mauritanien Mohamed Cheikh Ould Mohamed, la Cour suprême se penche sur le dossier de repentir du blogueur condamné à mort pour mécréance. La COP22 entre dans sa dernière ligne droite. Près de 180 chefs d'État et ministres des pays signataires de l'accord de Paris sont attendus ce mardi à Marrakech. Ils doivent entre autres tenter de s'accorder sur la feuille de route qui doit permettre l'application concrète de l'accord climatique. Et puis, dernier voyage officiel de Barack Obama avant son départ de la Maison Blanche en janvier. Première étape, la Grèce, puis l'Allemagne. Il terminera au Pérou par un forum de coopération économique Asie-Pacifique. Occasion d'un entretien avec le président chinois Xi Jinping.
Merci à tous d'avoir suivi Info Matin sur les ondes de la Deutsche Welle. Rendez-vous à 17h en temps universel pour un nouveau journal. Anne,
tchuss.